Et aujourd'hui dans le podcast Et on en parle, nous recevons Giovanni. Teddy, est-ce que tu es content de recevoir Giovanni?
Qui?
Giovanni.
Ah non, pas fan, mais si on n'a pas le choix, show business, hein, c'est parti.
Bref, c'est un régisseur. Giovanni va vous emmener dans son monde burlesque, si vous ne le connaissez pas, tout se mêle, chansons, mimes, musique, performances visuelles, et c'est déjà pas mal. Hein. Il est speed, Giovanni, très speed, il sait tout faire, construire un jouet Kinder sans la notice, faire le grand écart avec ses bras, mais ça, c'est parce que sa mère, quand il était petit, lui faisait des œufs à la coque. Allez, c'est parti, Teddy, et on en parle de Giovanni?
Oui.
Bah alors, Doudou.
Voilà, Doudou, tu viens plus aux soirées, il n'y en a plus en même temps, tu me diras.
Alors, raconte un peu cette période, comment tu la vis, toi?
Ah bah écoute, je la vis bien, j'ai trouvé une poutre très solide dans mon grenier, il me manque plus, j'ai une bonne corde, il me manque plus qu'un tabouret assez...
À ta hauteur, écoute, on peut t'aider.
Non, écoute, je me suis résigné à ne plus en râler, tu vois.
Ouais.
Je me suis dit, allez.
Ah, t'as râlé quand même, toi, t'as fait partie de ces gens qui ont râlé.
Je râlais d'ennui, tu vois. Je me suis dit, tiens, mais ça peut pas durer comme ça, on peut pas rester.
Le premier confinement ou.
Non, le premier confinement, c'était cool. Il faisait soleil, il faisait très, très soleil d'ailleurs. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, le petit garçon, il va grandir. Voilà, je profitais de ma vie de papa et ma vie de famille.
Il n'y a que dans le Nord qu'on est surpris qu'il fasse soleil. Dans le Sud, les humoristes, ils font, en même temps, il faisait un temps normal. Il y avait du soleil.
Sur mon balcon comme chaque été.
Et là, on est surpris.
À partir de février, tout allait bien. Mais non, mais c'est vrai, le premier confinement, c'était cool. Puis j'ai la chance d'avoir des voisins. On a mis un portail, mais il y a un grillage et on a mis un portail, tu vois. Donc,
électrique avec des barbelés.
Au contraire, il est électrique. Quand tu passes à un mètre, il souffle tout seul, tu vois. Et donc, c'était confinement chez l'un et chez l'autre. Donc,
d'ailleurs,
avec le soleil.
J'étais pas avec ma femme.
Écoute, c'était génial. Ma voisine est vraiment, vraiment agréable et confortable. Et donc, le confinement était bien et on a bien confiné. Et donc c'était bien sympa quoi. Vinyle tous les jours, musique dans la maison. Enfin voilà, ça chantait, ça dansait, c'était sympa. Mais parce que j'avais la chance d'avoir un jardin et une maison ensoleillée, donc voilà. Deuxième confinement, ça a été bon. Ça fait quand même 37 fois qu'on écoute les mêmes vinyles. La voisine, elle est sympa, mais elle commence un peu à faire chier.
Elle est un peu trop confort.
Et donc, non, mais après, c'est ça. Donc, à un moment, tu te dis, bon, c'est sympa. Tu sais, t'as l'impression de gagner au loto, t'as 1 million d'euros, tu dis, on fait une grosse truc dans la villa avec tous les copains. Puis à un moment, on s'est dit, bon, là. On sortirait pas un petit peu quoi, parce que Michel il est sympa, mais faut qu'il mette un pantalon quoi, à un moment il est chiant à un moment c'est un peu long, mais et j'ai appelé Pierre Novak qui est à la régie de mon spectacle.
Ouais, on se demande comment il a en régie de ton spectacle. Grâce à qui?
Grâce à un con.
Et on m'a jamais... on m'a jamais dit merci.
C'est vrai en plus.
T'as besoin d'amour,
Doudou. Oui, aimez-moi.
Je te remercie, tiens.
Merci de ton remerciement.
C'est normal.
Je te remercie
que je me remercie, qu'il se remercie. D'ailleurs, il te remercie, Pierre.
Mais ça me fait plaisir.
Et il me remercie d'avoir dit. Mais tant de merci. Je crois que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas dit merci.
Je vous aime. Pierre Novak,
je l'appelle à un moment et puis je dis bon, ça va? Il dit ouais, écoute, je fais des jeux sur Wish. Sur Switch.
Sur Twitch.
Le mec,
et là, tu vois qu'on a plus de 30 ans sur Twitch.
Ouais. C'est vrai.
C'est avec sa Play machin.
Comment ça, Twitch? Il dit oui, je fais des petits jeux là, machin. Tu fais des jeux. Il dit je fais des questions, ils font des réponses avec des gens que je ne connais pas sur Twitch. Je dis ok, tu te fais chier, hein? Il dit oui, je me fais bien, bien chier. Je dis bon, écoute, viens, prends ta guitare et je prends ma guitare et puis on fait de la guitare, quoi. Alors, quitte à se faire chier, on va faire de la guitare ensemble. Et puis, il me dit écoute, ouais. Et puis, il vient à la maison et je commence à lui faire écouter quelques compos que j'avais fait. Que j'avais écrit il y a 15-10 ans, et puis on s'est dit c'est sympa, puis on s'est dit tiens, on va faire un truc, et puis on est en train de faire un album carrément là.
Carrément.
Donc c'est chouette. Et
l'album
pop rock, et il y a déjà une dizaine de titres qui sont enregistrés qui ont vraiment de la gueule.
Ça n'a rien à voir, mais tu sais que ton cou est déjà protégé par ton écharpe,
ouais,
que t'as pas forcément besoin de doubler avec le masque.
C'est vrai. Désolé.
Tu l'as depuis tout à l'heure.
Ah non, c'est pas la tienne, c'est la voisine.
Toujours aussi charmante.
et donc voilà, et donc ouais, le deuxième confinement était un petit peu plus cool parce que je suis parti dans de la création et j'ai commencé à faire quelques castings parce que dans le cinéma ils ont trouvé des solutions. C'est-à-dire que bah au départ c'était bon, les assurances elles nous laissent tomber, les producteurs nous laissent tomber, on a trouvé la solution, faites quoi, bon on se démerde, d'accord. Donc du coup deuxième confinement c'était un petit peu plus créatif.
Ouais.
Donc ça allait. Et le troisième, bah.
Ok, tant que ça se termine.
Voilà. Okay. Voilà, c'est créatif, mais sauf qu'il y a les gosses, quoi. Donc là, ça y est, ils auraient ouvert les écoles, mais c'est un peu plus compliqué. Mais non, c'est. Non, c'est bien, mais j'essaye de positiver. Voilà, je me suis dit, allez, on râle plus, maintenant, on vit avec.
Bah oui.
Et j'espère quand même de tout cœur reprendre une vie normale, quoi. Je parlais avec une copine hier qui me disait on espère la réouverture de la vie très vite, mais je pense que c'est ça la vraie phrase, quoi. C'est la vie carrément.
C'est vrai, carrément.
Parce que c'est pas juste réouvrir les salles qu'il faut faire, pas juste les restaurants. C'est putain, moi je tuerais aujourd'hui pour me retrouver dans une embuscade dans un bar avec Michel qu'on connaît pas, tu vois, qui te raconte des trucs. Tu dis il faut vraiment que tu me le lâches, il est vraiment relou, viens, on va ailleurs. Tu vois vraiment ce truc là où tu rentres à 14h du matin. Que ta femme a dit t'étais où, j'étais nulle part
avec Michel.
Voilà, j'étais avec Michel. Non mais ouais, enfin vivre quoi.
Il y a deux jours, il y a une copine qui vient. Je suis en train d'écrire un bouquin et donc elle me corrige et je lui dis je te remercie. Donc en gros, il y a plein de trucs à refaire, il y a plein de trucs, c'est de la merde et tout. Et moi j'étais tellement émue, tu sais, c'est l'ascenseur émotionnel des émotions et je pleurais tellement j'étais heureuse qu'elle me dise qu'il y avait encore du boulot et que je pourrais faire quelque chose. Quoi.
Non mais oui, non mais c'est mais on en est là quoi. Vraiment, on en est là, c'est vraiment bizarre. Puis j'en ai marre de voir les gens avec des masques. Quoi. J'étais déjà très, je trouvais ça abusif de voir les gens avec leur téléphone tout le temps. J'étais déjà en colère sur cette société tout le temps derrière un téléphone. À vivre, à montrer des choses qu'on n'a pas en fait, c'est vrai. Non mais non mais c'est vrai. On est tous là derrière son téléphone à regarder comment va le monde et comment va.
On est tellement mieux derrière une bière.
Mais non mais c'est vrai. Putain mais j'ai envie que les gens puent de la gueule, tu vois, et qu'ils te parlent comme ça.
Oh, bah, t'as réussi ton pari.
Écoute, avant la gueule des micros qui ont fondu, il y a quand même pas mal de monde.
Tous les trois un peu au même endroit.
Oui, ils ont la même bosse.
Je sais pas ce qu'il fait Teddy avec les micros ici. Mais...
C'est mon côté régisseur, je m'ennuie un peu.
J'ai une première.
Non, ça passe pas, faut pas insister.
Je trouve de sens à chaque fois, c'est sûr.
Comme les suppos, on sait jamais. Bon, bref,
j'ai un mauvais goût. J'ai parcouru un petit peu ton parcours sur Wikipédia.
T'as parcouru mon parcours, c'est bien
ouais,
ça.
J'ai
pas trouvé
ton parcours.
J'ai une page Wikipédia.
Je me suis permis d'aller le voir parce que je t'avoue qu'avant cette émission, je ne connaissais pas ton nom, je ne sais pas qui tu es. Donc je me suis permis d'aller voir.
Non, mais je t'en remercie, c'est bon, je t'ai remercié. On a plus de guerre. C'est bon.
Allez, on est copains, on a
un partout, c'est bon, ça va.
Un partout.
Je veux bien en être. Pardon.
Tu avais gagné 27 prix, dont souvent le prix du public, c'est ce qui est marqué.
Ouais.
Donc j'ai une première question. Est-ce que tu te la pèterais pas un peu, connard?
C'est important pour moi de débloquer bienveillance.
C'est très sympa. Non, et je t'emmerde.
Non, mais ça veut dire que t'as fait beaucoup de, t'as fait beaucoup de concours, du coup, beaucoup de.
Et j'ai eu horreur d'en passer en plus. Je t'avouerai que j'en ai fait beaucoup, mais j'avais toujours. En fait, j'ai fait des concours parce que c'est un milieu où il faut se montrer. Donc, et dans les concours, c'est là où t'as forcément le public qui vit. Les mecs qui habitent au bout de la rue et qui sait qu'il y a un concours, donc c'est un festival depuis 30 ans et le gars il y va pour se marrer. Donc le public, j'apprécie venir dans les concours pour le public. Mais il y a énormément de professionnels qui viennent parce que ça fait 30 ans qu'ils viennent parce qu'il est producteur de machin. T'as toujours les gars, et ça t'en as au moins une quarantaine par festival, de professionnels qui ont tous déniché la perle rare, tu vois. Ils ont tous. Moi j'ai connu Florence Foresti, hein. Elle aimait pas le café avant, c'est moi qui lui ai fait.
Que tu parles de Gérard Sivet.
Mais oui, mais t'en donnes. Non, mais, oui, c'est vrai, mais autant lui, c'est vrai qu'il y en a côtoyé beaucoup, tu vois. Mais il y en a toujours un qui a tout vu, qui a tout vécu. Ouais. Mais c'est pour lui que tu viens parce que c'est lui qui va parler de toi à l'autre qui a connu aussi genre Roucas et machin et en fait c'est super énervant parce que tu te retrouves à être un espèce de bétail qui tu dois prouver au monde professionnel que ce que tu fais c'est plus drôle qu'un autre.
Ouais.
Tu vois, c'est même pas que c'est drôle, c'est juste que ce jour-là t'es avec un mec qui doit être moins drôle que toi. Ouais. Et je trouve ça horrible.
Ça crée du coup vachement de entre humoristes, ce qui peut créer aussi
déjà parce que du coup je me suis souvent retrouvé à sortir dans un festival. À l'époque je sortais des festoches et je me disais mais ce mec c'est un con. Ouais. C'est, ce mec, c'est un con. Mais non, c'est pas un con. C'est juste qu'il a un esprit compétitif et son but, c'est de gagner. Ça. Et c'est ce qu'on lui demande de faire. Et il l'a bien compris. Sauf que moi, j'arrivais vraiment pas du tout. Et j'ai toujours gagné le prix du public parce que j'y allais toujours pour m'amuser et amuser et les gens. Et d'ailleurs, oui, voilà. Et je passais jamais de temps avec les autres humoristes, avec toute la bande, machin. Moi, j'allais me faire couler un bain à l'hôtel. Et voilà, j'étais 4 heures comme ça. Je trempais pendant 4 heures. Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que la plupart des dans le jury, les gens disent mais on pensait pas que t'étais aussi survitaminé sur scène, que tu savais faire autant de choses, machin. Je dis, bah oui, en fait, parce que tu m'as pas vu de la semaine. Ouais. Du coup, tu t'attends à rien.
C'est vrai ton problème avec les baignoires parce que j'ai fait 2 dates de tournée avec toi à Lyon. Et le premier truc qu'on s'est dit le lendemain, on s'est réveillé au petit déj. Toi aussi, t'as essayé le bain avec.
Ouais, c'est, j'ai un petit kiff avec les baignoires.
C'était pas ensemble, les gars.
Et sinon, et.
Dis rien.
Je parle d'énergie là, Giovanni, parce que moi, s'il y a un mot, s'il y a un mot qui me vient quand je parle de toi, c'est vraiment énergie.
C'est vrai qu'on a passé une bonne soirée.
Je m'en souviens encore. Et, mais ma question, c'est est-ce que t'es un enfant hyperactif au départ?
D'après les psychologues, non, parce que j'ai pas vu de psychologue. D'après
mes profs, suicidés.
D'après mes parents, non, mais d'après mes professeurs, oui.
D'accord.
Mais non, c'était une époque où on déclarait pas, on n'allait pas voir. Ouais. On n'allait pas voir si bon c'est un gamin. Voilà.
Aujourd'hui on dit mais non ton gamin il est pas hyperactif, il est chiant.
C'est ça. En fait. C'est ça. C'est ça.
Bah, c'est non, vrai qu'aujourd'hui quand on dit il est hyperactif dans les années 90 on disait il est casse-couille.
Ouais, ouais. C'est même, ça c'est ça.
Mais après je pense que c'est une hyperactivité. C'est pas une idée de il faut que je fasse quelque chose. Je pense que c'est plus de la curiosité. Je suis hyper curieux en fait je pense. C'est-à-dire que
T'es hyper curieux sur pile, hein, quand même.
Ouais,
hein,
ouais, non, mais j'apprécie vraiment les bons moments et je veux jamais en perdre une goutte, quoi. Je suis un amoureux de la vie, en fait, je crois. C'est vrai, hein. Enfin, je sais pas, toi qui on a fait quelques dates ensemble.
Ah ouais, non, mais complètement.
J'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien découvrir des gens, même les plus cons, tu vois, juste pour la science.
On a passé de super moments. Juste pour la science. Bah, c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'on a passé des vrais bons moments humains, alors que l'autre artiste que je suis le plus, c'est Émilie Delettré.
Ouais.
Notre délire.
Ah oui, j'ai entendu parler, moi. Ouais, non. Ah, je sais pas. Non, écoute, moi je l'ai pas suivi.
Franchement, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi de partir en tournée, de faire toutes ces choses-là, et vous le savez mieux que moi, parce que vous en faites beaucoup. C'est des rencontres humaines, quoi.
Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier, je pense.
J'allais en venir.
Ouais. Pourquoi je fais ce métier? Ouais.
Pourquoi tu fais ce que tu fais?
Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je ne sais rien faire d'autre. Non, parce que je ne fais pas. Et c'est ça aussi le secret, c'est que je n'ai pas l'impression de travailler, je n'ai pas l'impression de faire. Je vis, je vais dans le sens du vent, en fait. Je vis comme ça. Contrairement à un métro boulot dodo, tu vois... La vie où tu voilà à 9h rendez-vous on va parler de tel truc et il faut qu'on prépare telle réunion, ça je peux pas.
Mais alors d'accord, tu vois ta vie, je suis d'accord avec toi, on travaille pas, on s'éclate, mais il y a quand même une notion d'un moment donné se poser pour pouvoir produire.
Produire ou écrire,
ouais,
créer.
Ouais, créer si tu
peux. Pour le coup, ça c'est un peu une chance du coup pour moi parce que je crée même quand il faut pas. Donc par contre, j'ai appris à vivre comme ça. Je me suis éduqué tout seul à prendre note, à enregistrer tout ce que je fais. Je me filme beaucoup, je m'enregistre beaucoup, j'écris tout d'accord. Ce que je pense, des vannes, des trucs, des machins, quand je suis au téléphone, j'envoie des SMS aussi des fois à ma femme.
Ouais.
Alors ma femme, elle reçoit des SMS complètement, des rimes, des poèmes, des trucs, qui n'a rien à voir, tu vois. Des fois,
tu m'as dit je t'aime, mais non, c'était pour le spectacle.
Des fois des mots, des listes, des mots très intéressants, tu vois, je sais pas, la dernière fois, je dois sûrement... Ah non, j'ai changé de téléphone parce qu'elle m'a fait un téléphone il y a 2-3 jours.
Merci pour cette nuit.
Très cul aujourd'hui. Hein,
dis à ta sœur de me lâcher. Je sais pas. Mais non, pour le coup, j'ai pas. Mais j'ai envoyé 2-3 phrases et dans la fois que j'avais dans mon, j'avais dans mon album quelque chose. Je pensais à mon album, par exemple.
Ouais.
Et je lui dis tiens, c'est cette phrase-là. C'est ces 2-3 mots-là que je voudrais changer. Et donc du coup, je lui ai envoyé comme ça.
Donc, tu vois,
c'est mon bloc-notes humain en fait.
Okay. Donc c'est ça. Toi, ton truc, ça vient tout le temps n'importe quand.
Ouais.
Tu bloc-notes donc téléphone ou ta femme ou machin.
C'est ça.
Et après, il y a un moment où tu reviens et tu. Pardon, chérie, bouge pas. J'avais noté quelque chose.
Tu t'es lavé. Oh bah oui, bah c'est foutu.
Mais est-ce qu'il y a un moment donné après tout ça, donc tu ritualises Où tu...
Alors ça c'est la deuxième phase où j'organise tout ce que j'ai écrit. Voilà. Bah, alors ça c'est la deuxième phase qui est un peu plus compliquée.
Ouais.
C'est que j'ai... Alors là quand à un moment j'ai une deadline où on me dit tiens pour demain il faut une chronique radio ou bien pour demain il faut un sketch télé. Voilà. Et là du coup je dis alors qu'est-ce que j'ai écrit ? Et voilà, tu vois l'album c'est ce que je te disais, c'est que quand j'ai commencé à me dire bah, tiens là on va faire un album pop rock. J'ai besoin quand même de temps en temps quand on a une bonne musique, un bon refrain de dire bah tiens voilà je vais parler de ça, j'ai besoin d'aller quand même dans mes archives Word pour dire voilà je tape un mot tracteur machin et puis il me balance tous les trucs que j'ai écrit avec tracteur dedans quoi.
Eh ben moi j'utilise Google Keep, je sais pas, donc t'as Evernote qui fait ça, t'as Mac, alors ça je le donne pour tout le monde hein, pour ceux qui veulent être humoriste, dès que j'ai un truc comme toi je le mets sur Google Keep et je hashtag. Ce qui fait qu'un jour, si je me dis, OK, là, je vais écrire sur l'école, je tape le mot école et il va y avoir toutes mes pensées que j'ai depuis 10 ans.
C'est ce que je fais avec. Je fais ça. Alors, avec Google, comment Google ?
Google Keep.
Keep. Ah non, moi, c'est avec le Drive. Google
Drive. Marion, toi aussi. Google...
Moi, c'est Marion. C'est Marion.
C'est beau la connivence entre des gens qui ont du talent.
On n'a pas du talent, on a Internet.
Ouais, ouais, pardon, c'est ça que j'ai pas. Putain, je me trompe depuis le début.
Ma grand-mère disait c'est pas avec du talent que j'ai baisé ton grand-père. Non, c'est du travail. Bon, disons qu'elle a assassiné tous ceux qui étaient autour.
Pas facile de se faire tondre après.
Non, mais c'était juste pour dire que cet outil est génial parce que tu te crées ton propre Wikipédia et tu gagnes un temps fou quoi, depuis que j'ai découvert ça.
Complètement, complètement. Mais j'ai des idées depuis 10 ans quoi, et que mais après bon c'est vrai que il y a 10 ans j'écrivais un truc tous les 3 mois, maintenant c'est toutes les demi-heures quoi j'écris un nouveau truc
même en plus t'as les chroniques là, donc ça aussi ça te met dans un
c'est ça complètement. Et puis quand j'écris pour le coup aussi j'écris des chroniques, j'écris 3 pages pour en garder qu'une donc mais par contre les 2 pages que j'ai je les jette jamais, je les garde toujours en archive et donc j'ai je sais plus, je dois avoir 25 gigas de texte t'imagines.
Donc,
j'avoue.
T'es OK pour dire que il y a quand même une notion de travail, de régularité, de production, même si tu le sens pas comme un travail, mais un truc d'avoir toujours l'œil de lynx, l'ouverture.
C'est ce que Jacques Brel disait. Jacques Brel disait ça, c'est qu'en fait le talent n'existe pas. C'est le travail qu'il y a derrière qui est important. Après, moi j'ai la chance de faire un métier que j'aime, et donc du coup je n'ai pas l'impression de travailler.
Bien sûr.
Mais oui, c'est du travail en réalité.
Alors on va dire de consacrer du temps en tout cas à ça, quoi.
Ouais. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ben, par contre, c'est une vie H24, c'est-à-dire que je pars en vacances, je pense à ça. Je suis sur la route, je pense à ça. Même quand je dors, je pense à ça, quoi. Je suis constamment dedans, quoi.
Question un peu plus technique, parce que je pensais à ça. Jérémy Crévy, un jour, m'avait dit, il y a des années, il m'avait dit, je suis un peu dans la merde, parce que la SACEM lui avait demandé de déclarer son spectacle, les textes de son spectacle. Mais c'était un spectacle d'impro. Il m'a dit, bah, c'est un peu compliqué.
C'était Gad Elmaleh l'auteur.
C'est ça. Mais du coup, toi qui fais beaucoup de visuels, comment auprès de la SACEM tu fais pour déclarer du visuel concrètement ?
Ah bah, c'est simple, tu vas à la SACD.
Ok, allez, prochaine question. Mais pour ceux qui ne savent pas du coup.
Tiens, non, mais moi ça m'intéresse. Ouais. Quand tu écris, est-ce que, parce que tu es vachement dans le visuel, est-ce que tu écris à tel moment je fais ça et il y a un moment donné tu te prends un temps avec la caméra où tu explores ? Comment tu fonctionnes visuellement
J'écris comme une BD en fait. Je fais des storyboards et je fais bien souvent quand je fais un sketch complètement visuel, je crée une bande son et sur la bande son c'est comme si que je créais un vrai son, une vraie chanson. Et dessus, pendant que je crée la chanson, je crée la choré, voilà, en gros.
D'accord.
C'est-à-dire que pour moi, ma chanson, bah, c'est des paroles, c'est une voix off, c'est des bings, des paf, des poufs, des claques qui portent, des portes qui claquent.
Ça a l'air bien, c'est bien vendu.
Des portes qui claquent, des claques qui portent, des claques qui portent. Oh, mais c'est quel génie !
Marion,
mais quel
poétique !
Oh putain, des claques qui portent et qui s'emportent. Et des...
J'ai peur.
Il faut être schizophrène.
Et là, je parle. Et... J'arrête. Et donc du coup pendant que j'écris ma musique, je j'imagine la chorégraphie qu'il peut avoir dessus.
Donc
sauf que ma chorégraphie c'est des grimaces, c'est des sauts, des choses comme ça.
Donc tu passes quand même par l'écrit avant de passer sur le plateau à travailler ton physique. Ou bien des fois, ça t'arrive de bah, dire
c'est
ah, tiens,
les...
y a ça.
Je fais les deux en même temps, ouais. D'accord. Je fais les deux en même temps, mais jamais dans le même sens. C'est-à-dire que quand je fais un sketch purement visuel, je crée ma bande son et puis j'imagine ce que je pourrais faire dessus. Un bruit, une musique va me donner envie de faire ça. Après, je vais faire 30 secondes, je vais voir si ça colle bien, je vais le faire, je vais le mimer, je vais revenir sur l'ordinateur, je vais rajouter 10 secondes. Voilà. Et puis à la fin, je fais un sketch de 3 minutes. Alors bien souvent, c'est 9 minutes, puis après, je coupe au fur et à mesure, forcément. Et par contre, dans le texte, je vais écrire et après, là, je vais couper pour que ce soit musicalement joli à entendre.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Excusez-moi, attention. C'était le bruit du jingle qui sera rajouté au montage pour les questions rafales. Le bruit qu'on a parfaitement
rafale.
Entendu.
Question rafale. Alors, je t'explique un peu la question rafale. On va te poser 10 questions. Il faut que tu répondes le plus vite possible.
D'accord.
Okay.
Et ce sera chacun de nos tours. Question, tac, 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 ping-pong.
D'accord.
Voilà. On a dit on va s'adapter à l'invité.
Ouais, c'est ça. C'est
moi, j'ai pris un œuf à la coque. Et c'est parti. La première chose que tu fais le matin en te réveillant
Mettre de la musique.
Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant?
Ébéniste.
Ah pardon?
C'est vrai, ébéniste. Ah ouais. Je voulais être ébéniste, construire des meubles en bois.
Ah, c'est,
ah bah c'est pas marqué sur Wikipédia.
La personne que tu admires le plus?
Mes enfants et ma femme. Ouais.
Ah. Quelle est ta plus grande peur?
Mes
enfants et ma femme.
De mourir, de ne plus être capable de faire quelque chose, de perdre un membre ou de.
D'être diminué.
Ouais, 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 c'est ça.
La chose dont tu es le plus fier?
Bah, de m'être fait tout seul, sans formation, et de rester ce que je veux faire. Mmh. Voilà.
Bah, on le dira à tes enfants.
Et mes enfants. Mais mes enfants font ça, ils sont éduqués comme ça, donc j'en suis fier, bien sûr.
La tâche que tu remets toujours au lendemain?
Toutes.
Toutes.
Procrastinateur?
Ouais. Okay. Oui. Ah oui, oui. Oui, oui.
Les choses auxquelles tu crois et que les autres considèrent comme une folie?
Bah, vivre au jour le jour. Mmh. Ouais, vivre cool, vivre tranquille,
être heureux,
s'en foutre quoi. De tout. Ouais, c'est ça. Même pas vivre heureux, vivre caché, mais complètement vivre heureux et peu importe où et peu importe avec qui quoi. Mmh.
Si tu avais un regret dans ta carrière artistique, quel serait-il?
Ne pas. Ah, c'est intéressant ça. Putain, là pour répondre rapidement, un regret dans ma carrière artistique.
Tu peux développer un petit peu.
Ouais, bah, je pense que c'est peut-être m'être plus intéressé à la musique plus vite. Parce que j'avais la capacité, mais je me suis jamais vraiment intéressé. J'ai pas pris de cours. J'aurais dû prendre un peu plus de cours et puis. Et peut-être. Enfin, surtout dans la musique, pour pouvoir jouer avec d'autres personnes. Ça, c'est intéressant. C'est peut-être ça ma lacune, c'est de faire beaucoup de choses et donc du coup d'avoir appris tout seul et donc du coup d'être capable de faire seul.
Ouais.
Et du coup, quand les gens viennent avec moi, je dis alors.
Et
les mecs, j'arrive pas à m'expliquer ce que je veux faire, tu vois. J'arrive pas à dire bah tiens, je veux ça et je veux ça.
Ah oui, donc du coup.
On est dans des questions rafales, les gars.
Allez, pardon, voilà.
Quel défaut as-tu qui est insupportable pour les autres?
Bah, il est super actif.
Et enfin, la dernière question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi.
Putain.
Ah, c'est fou. Ouais.
Je suis ému.
Tout à l'heure, tu disais que tu t'étais fait tout seul, Giovanni. Ouais. Explique-nous un peu ton parcours.
Eh ben, en fait, j'ai à l'école, j'étais pas trop intéressé parce que alors, très bon en discipline, mais et très bon à l'école, mais pas du tout intéressé. Voilà, perte de temps pour moi l'école. Et quand j'ai découvert le théâtre et le cirque, c'est là où j'avais envie d'aller à l'école. Sauf que, bon, forcément, j'étais plus souvent collé.
T'avais
et
quel âge, là?
J'avais, bah, ça avait, ouais, j'ai commencé à 12 ans. Et c'est un copain, Fifi, alors, enfin, Maxime Tellier, un copain d'enfance.
Il n'y a pas une lettre de bonheur.
Et on l'appelait Fifi parce qu'on avait créé un premier spectacle ensemble qui s'appelait Fifi, et moi, qui était un espèce de magicien un peu béné. Et moi, j'étais son assistante. J'étais une vieille dame. Une vieille dame, c'était un espèce de Shirley Dino, et j'étais une vieille dame avec un peu habillée en vamp, tu vois, à l'époque, et je me faisais appeler Foufoune, donc il y avait Fifi et Foufoune, voilà, et c'était, c'est vrai, et je parlais comme ça, parce que j'entendais rien, tu vois, voilà, et donc c'était mon premier sketch, Fifi et Foufoune, et puis on a commencé à faire ça, parce que lui, son père et sa mère... était très très copain avec Claude Thomas qui tenait les Folies de Paris à Lille, et c'était l'époque où Claude Thomas tournait à fond, et puis et les Folies de Paris c'était le lieu où on s'éclatait la nuit, quoi, et donc du coup lui Fifi il avait toujours des liens avec Claude Thomas, et il voulait faire ça comme métier, et puis voilà, il était toujours intéressé par le monde du spectacle, et voilà, de fil en aiguille, moi je n'avais absolument rien à voir avec le spectacle parce que mes parents ne m'ont pas éduqué dans ce sens-là, on n'allait jamais au théâtre, on n'allait jamais voir des spectacles de rue ou des choses comme ça, mais j'avais le père de ma mère qui lui était vraiment dedans, mais que je n'ai pas connu parce qu'il décédait quand j'étais très petit, et qui était donc du coup à mesure publique, et qui faisait il a fait partie des créateurs du carnaval de Cassel, voilà, il était porteur de géants,
tu parles dans ton
c'est le grand-père que je parle dans mon spectacle, voilà, et donc le père de ma mère, et en fait je me retrouve comme ça de fil en aiguille à l'école avec Fifi qui lui est vachement intéressé par ce truc, et je dis bah c'est quand même cool, quoi, c'est vrai que c'est sympa, et il m'inscrit comme ça à l'atelier du théâtre du collège et l'atelier cirque, et donc du coup je découvre un petit peu le spectacle, et je m'intéresse comme un gamin à la télévision, à regarder le plus grand cabaret du monde, le cirque de Monaco, enfin voilà, tu vois, le de Moscou, Monte Carlo, tout ça, et je me fais une passion pour ça, les frères Taloche qu'on a capté la RTBF, donc il y avait Signé Taloche qui explosait aussi déjà sur la Belgique, et je me trouve une passion pour le rire, quoi, pour faire rire. Et on crée Fifi et Foufoune, et puis on part à organiser des kermesses, des choses comme ça, et je découvre un monsieur qui s'appelle Mario, qui était un ancien militaire, et qui s'est reconverti dans l'humour et dans le cirque.
Qui était clown.
Il était clown, et en fait lui il était paracommando, et il est c'est vrai, hein, et il a fait la guerre du Tchad et tout ça, et il faisait des spectacles pour les enfants du village là-bas. Et quand il a arrêté l'armée, donc assez tôt, il avait 35-40 ans. Il passe par une batterie de psychologues et on lui dit monsieur ça va, il dit, oui de temps en temps je me réveille un petit peu par rapport à la guerre que j'ai pu vivre, voilà, quand tu sautes en parachute à 50 et il y en a 10 qui touchent le sol parce que les autres sont morts au vol, bon bah ça fait des séquelles, quoi, ça va, oui je finis ma bouteille de whisky et puis on va bouffer, ouais bah il est midi, ouais d'accord, tu vois, donc il avait été un petit peu quand même touché par la guerre. Mais il a toujours fait des spectacles pour les enfants du village.
Et, c'est rassurant.
Non, mais c'est vrai. Et les psychologues lui ont dit, mais monsieur, vous faites la thérapie par le rire. Continuez à rire, ça vous rappelle qui vous êtes, et tout simplement, et ça vous extériorise un petit peu de tout le mal-être que vous avez pu avoir et que vous avez encore. Et donc lui, il continue à faire du spectacle et tout ça. Et un beau jour, bah, je suis gamin, je dois avoir 14-15 ans, et puis il me découvre, et puis il me dit, tiens, viens avec moi, machin, tout ça. Et j'ai une bande de copains, c'est une bande de clowns, quoi, et on est 10-15, et on va faire des trucs ensemble, quoi. Et là, je dis, ouais, mais moi, je suis mineur, papa, maman, ils vont pas vouloir. Non, mais t'inquiète pas, machin, tout ça. Je vais voir tes parents, donc ils rencontrent mes parents. Et puis, et ça devient mon papa. Voilà, ça devient mon papa spirituel. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il m'appelle fils. On se voit souvent et on s'apprécie toujours autant. Et c'est lui qui m'a vraiment lancé. Qui m'a fait découvrir les vrais métiers, les vrais spectacles où tu te changes dans les placards à balais. J'ai joué dans les EHPAD, j'ai joué dans les kermesses scolaires, tu vois, les brocantes.
Et là, j'étais
encore ado. Ouais. Et puis un beau jour, lui, il arrive à 60 balais et puis il dit, bon, bah, j'arrête. Je dis, mais non, on s'amuse bien là, attends, pourquoi? Il dit, non, moi j'arrête, tu vas voler de tes propres ailes. Ça, je me rappelle, c'est une phrase qui m'a fait pleurer. Il me dit, c'est le moment où tu vas voler de tes propres ailes. Et je dis, mais comment on fait?
Moi, j'ai pas d'ailes.
J'ai pas d'ailes. Et donc, je me retrouve tout seul.
Et t'étais encore à l'école?
J'étais encore à l'école et je quitte l'école. Je D'accord. quitte l'école un an après parce que je devais passer, j'arrive au lycée même à un moment, et puis je passe mon BEP vente action marchande parce que ma mère elle voulait absolument que je fasse des études, donc du coup je dis oui mais pas général. Elle dit bon tu vas redoubler ta troisième. Ouais bon si tu veux ok, donc je redouble ma troisième et puis au bout de deux mois ma mère elle dit bon tu partiras en professionnel parce que de toute façon donc j'ai redoublé pour rien. D'accord ok, donc j'arrive en professionnel, je fais deux ans et puis là je dis bon c'est bon j'ai eu un BEP, je peux être caissier à Carrefour, ça va on arrête là. Elle dit non tu vas passer ton bac. Et puis bon pour finir j'ai su m'organiser pour pas passer mon bac. Et donc du coup j'ai vite quitté l'école et là je me retrouve tout seul et donc je pars au cirque et avec les familles traditionnelles des avatars et tout ça, et je me retrouve à jouer dans les sous-chapiteaux pendant 2 ans et demi avec ma caravane, une caravane d'ailleurs.
Ah, donc,
pour l'anecdote,
là, quand tu dis tu pars au cirque, c'est même pas une école, c'est tu vas
je pars au cirque traditionnel avec la vraie famille de cirque, les Prins, les Dassonville, les Dubois, les
que t'as rencontré Jackson.
Bah, que j'ai été tapé comme ça à la bâche du chapiteau.
Bonjour, je suis rouge et une...
voilà, avec le chien qui me bouffait le mollet. Ah, bonjour, non, je voudrais juste faire le clown. Alors il me dit bah tu sais jongler. Je dis, oui, bah viens, entre. Puis donc j'ai jonglé, je jonglais à l'époque à 4-5 anneaux, massues, les torches enflammées, tronçonneuses. J'avais un numéro où je jonglais avec une raquette, une guitare et
c'était légal.
Je jonglais avec une tronçonneuse, une guitare et un couteau et un sabre. Et j'étais magicien, j'étais équilibriste, j'étais avec mon ex-copine qui était gymnaste et on avait un numéro de main à main de portée. Moi j'étais porteur, elle était voltigeuse. Et
vas-y, montre-moi, porte-moi.
j'étais il y a longtemps ça. Et j'étais fakir aussi, je m'allongeais sur des planches à clous, je bouffais des lames de rasoir, je crachais le feu, je me douchais avec des flammes, je faisais vraiment plein de choses quoi.
Fakir, j'avoue que c'est un grand mystère parce que c'est une très belle performance, hein. Mais à un moment, ouais. Pourquoi?
Bah oui, oui. Tu vois, enfin, c'est... Bah, y a un mec qui a dit, les gars, moi je peux marcher sur du verre. Allez, vas-y. Ah, attends, il le fait vraiment. Et puis, y a un mec qui dit, moi je vais essayer. J'ai dit, non, arrête, Michel. Michel. Et donc, du coup, je faisais plein de choses sous chapiteau.
Donc là, c'était jusqu'à quel âge, à peu près?
Je devais avoir presque 18, 18-19, quoi. Ouais, entre 17, 18, 19 ans. Et puis après, j'arrête pour partir en cabaret. Alors, pour l'anecdote, en plus, j'avais une caravane au cirque parce que mes parents avaient une caravane. Donc, c'est la caravane de mon enfance, tu vois. Et puis un jour, ils disent, bon, la caravane, on part plus, on va la revendre. Et Mario, il me dit, moi, je vais l'acheter. Comme ça, quand on part en spectacle, j'ai une caravane. Ah ouais. Alors, génial. Donc, il achète la caravane à mes parents. Et un an après, je me retrouve au cirque. Et je dis, il va falloir que je me trouve une caravane. Et Mario, il me dit, j'en ai une. Je sais. Il dit je te la file. Je vais
il me l'a vendu deux fois le prix.
Il m'a offert la caravane. Excellent. Et donc j'avais la caravane que j'ai grandi dedans. J'allais en vacances tout le temps et pendant 2 ans.
Et
je
elle est là. Et...
Du coup, il allait voir ses parents. Il a dit, vous l'avez bien niqué, Mario. Je l'ai récupéré gratos.
Je mourrai dans ma caravane. Vous m'entendez?
C'est vrai, ça, c'était drôle. Et donc, du coup, au moment où voilà, je quitte le cirque pour repartir. Alors, quand tu quittes le cirque, t'es seul au monde. Hein. T'as dit, bonjour, c'est qui le président? C'est vraiment ça. Pendant 2 ans. T'es sous chapiteau, t'as la vie de cirque et la vie de, ouais. Tu deviens sédentaire quoi. Et là tu dis putain mais c'est quoi un iPhone? C'est vraiment ça. Et là je pars au cabaret, donc c'était beaucoup plus cool parce que le cabaret ils me disent tu vas être fantaisiste sur les avant la revue, donc en première partie de soirée, et après il y a la revue, et dans la revue j'étais danseur modern jazz et danseur de cabaret quoi, et je faisais des cascades, des choses comme ça.
C'est à Pigalle, hein, c'est ça?
C'est ça, à poil. J'avais commencé à caler au Channel Paradise, puis après j'ai voyagé par-ci par-là dans d'autres cabarets en France et en Belgique, en Allemagne aussi, et je me retrouve à être en cabaret, beaucoup plus cool le cabaret. On te dit, bon voilà, on a 1h30 de spectacle, donc t'as une chaise, tu prépares tes affaires sur ta chaise, à l'envers, c'est-à-dire ton dernier costume, puis ton avant-dernier, machin, jusqu'au premier. Ça va aller une... Bah écoute, il y a 2 jours, je montais un chapiteau, donc m'occuper d'une chaise, ça va le faire. Et donc du coup, bon, le cabaret, c'était beaucoup plus cool. Et puis à un moment, je me suis dit, bon bah voilà, je vais ouvrir les portes... du one man quoi, du pénitencier, et je pousse les portes du spotlight.
C'est mal.
Salut, c'est Jean-Marie.
Non, surtout après on va recevoir Eric Barr qui est imitateur, et pour le coup on est dans
est-ce qu'il fait Giovanni, Eric Barr? Eh ben non,
on va lui demander.
Alors que moi je fais Eric Barr, tu vois,
et on fera un best-of, je crois.
et Et donc, du coup, je me retrouve en cabaret. Je quitte le cabaret pour pousser les portes du théâtre et du one man. Parce qu'à un moment, alors voilà, je suis jongleur. Sur ma carte de visite, c'est très drôle. Giovanni, clown, antipodiste, fakir, jongleur, équilibriste, tout ça. Puis les gens disent, bah, j'ai besoin d'un clown. Ouais, il fait. Ouais. Donc, du coup, bon, à un moment, je dis, bon, il va falloir vraiment que je fasse un truc. Donc, du coup, je me dis, bah, Giovanni, artiste performeur, voilà, pluridisciplinaire. Elle est encore là. Les gens disent ça veut dire quoi? Alors du coup je me dis bon bah je vais faire du one man et je me dis peut-être que one man show, un mec tout seul qui fait un spectacle, je sais faire, donc j'y vais et ce sera peut-être plus simple et je vais surtout commencer à toucher le vrai public parce que là jusqu'à maintenant je fais que du public mais
de la structure,
des communautés, voilà, des communes, des CE, des choses comme ça. Mais pas des gens qui payent leur billet pour venir me voir. Donc du coup, je me dis, allez, je vais lancer, je vais faire carrière. Donc il y a maintenant, il y a 8 ans maintenant, je pousse les portes du Spotlight et je me présente à la France un incroyable talent, en France et en Belgique. Et il y a un petit truc qui commence à se passer. Et donc du coup, j'arrive et là, je fais mon spectacle et ça fait un espèce de noir sketch. Ouais. Et là, je remarque que c'est pas ça qu'il faut faire, quoi. C'est pas ça que les gens attendent quand tu payes un billet. Tu vas voir un mec qui va, alors là, il a fait un moment, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il a fait un truc où il jonglait, après il a fait un truc, un numéro un peu de clown, puis après il a fait ça. Et donc du coup, je dis, bon, bah là, il faut vraiment avoir un truc qui coule, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un spectacle, et puis après, au fur et à mesure, j'ai travaillé, j'ai rajouté une histoire. Et le dernier Saltimbanque, c'est une espèce de troisième version jusqu'à aujourd'hui. Donc le spectacle, en fait, il est super long à se mettre en place, mais c'est ça aussi le problème, c'est que quand tu arrives avec plein de bagages, le temps que tu ranges tout et tu dis bon bah alors ça je garde, ça j'enlève, deux ans après tu dis bah c'est là pour finir, je vais la reprendre parce que ça marchait bien.
Mais finalement, on a reçu pas mal d'humoristes, puis on en connaît pas mal, mais je me demande si finalement ça c'est pas le propre de l'humoriste de refaire passer des couches, quoi, tu vois.
Ouais. Un peu comme après, c'est le work in progress, quoi. Je pense que le spectacle vivant, faut que ça reste vivant.
C'est vrai que voilà. Pour toi, nous, on t'a connu aussi ces années-là. Bah nous, on se connaît depuis 2012, donc c'est exactement ça. Moi, pendant longtemps, j'entendais Giovanni de la part de plein de gens. Il a un talent fou, on en a tous conscience, mais on n'arrive pas à le définir ce qu'il fait.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, et du coup, en fait, il fait ça.
C'est dur de faire venir des gens dans ta salle.
Mais complètement.
Les gens qui venaient, ils étaient à l'époque, malheureusement pas nombreux, mais quand ils sortaient, ils disaient c'est génial.
Mais qu'est-ce que t'as vu?
Problème, bah, voilà. C'est ça. C'est...
Ah, qu'est-ce qu'ils
font? J'ai vu ça, mais ils n'arrivent pas à c'est dire que ça parle.
Mais oui, complètement.
On sait très bien que les réseaux, on peut en parler autant qu'on veut. Ce qui marche vraiment, c'est le bouche à oreille.
Complètement.
Et si on n'arrive pas à définir, ça casse cet effet-là. Quoi.
Ben oui, et c'est il y a seulement 4 ans, du coup. Parce que oui, forcément, parce que le Covid, enfin 2 ans plus Covid, ça marche. Ça
fait 17 ans.
Voilà, ça fait.
ressenti 17 ans.
J'étais sorti de l'école à l'époque.
Quand j'allais au bar.
Donc, c'est vrai, c'est dingue, ça va faire 4 ans maintenant que le spectacle a cette version avec une histoire. Avec. Oui, bah c'est ça, parce qu'il est resté 4 ans avec un espèce de noir sketch. Et alors, pendant 2 ans. Les 2 premières années, ça a été ce spectacle un peu débridé, un peu décousu. Puis après, les 2 années d'après, ça a été l'univers est grand, le sien est compliqué. Et après, donc de la 4e à la 6e année, ça a été le dernier Saltimbanque, parce que c'est la production, 20h40 production, qui m'a pris sous son aile et qui justement... ils ont écouté le public quand ils sortaient justement de la salle et ils se disaient « bon bah oui, voilà ». Il nous faut une histoire, il faut que les gens puissent... Bah, c'est l'histoire d'un ancien, le petit-fils d'un artiste qui devient un saltimbanque et qui reste dans la filière du saltimbanque. Et qu'est-ce que c'est qu'un saltimbanque? L'histoire de monter sur une scène pour se rendre en spectacle, c'était ça la base d'un artiste. Et le dernier saltimbanque, parce que c'est vrai qu'il n'y en a plus de spectacles musicals comme on en faisait à l'époque, rester au goût du jour quand même. Mais c'est vrai que maintenant, un spectacle d'humour, un one man, c'est un truc où on met un putain de son, des putains de lumières, et le mec il raconte « vous avez remarqué quand on va faire les courses ?» Voilà, et c'est que ça pendant une heure et demie. Non, mais c'est essentiellement ça, ou bien le...
Mais je crois que c'est ta force, c'est-à-dire que quand on voit ton public, je pense que ce soit du gamin à quelqu'un quelqu'un qui est mon âge, ouais. À nos parents, nos grands-parents.
Donc 28 ans.
T'as vraiment un public hyper large.
Ouais.
Parce que je pense que, et ça c'est ta force hein, à mon sens, c'est-à-dire que tu as gardé l'âme du saltimbanque, mais tout en mettant la modernité c'est, qu'on mais a
c'était
aujourd'hui.
Ça, c'était ça le travail en fait, c'était c'est ça le projet. Et ça marche parce que je suis très content de revoir les gens revenir. Alors souvent je m'en moque un peu parce que je dis bah, vous avez toujours pas compris le spectacle. je vous enverrai le scénario la prochaine fois. Mais c'est quand je jouais à Paris avant le drame.
Avant
le drame, je jouais à Paris au Petit Palais des Glaces et donc on faisait 3 soirs semaine, jeudi, vendredi, samedi. Et c'était génial parce qu'il y a des mecs qui venaient du jeudi et ben du samedi. 2 jours après, il revenait avec d'autres personnes, avec d'autres ouais. enfants, avec d'autres... Tu vois, bah, je suis venu avec ma nièce et ma tante et la sœur de ma mère.
Parce que je les aime pas.
Oui, et pour faire découvrir le spectacle. Et les gens reviennent. Et des gens qui reviennent même une fois par mois. Ils ont dit, bah, nous, on est venus, on a repris les billets pour le mois prochain. Et je croisais des gens qui allaient voir d'autres spectacles.
À boucher à oreille.
Mais oui, complètement. Des gens qui allaient voir Bruno Salomon en même temps et que je croyais dans la file. Moi, je sortais de mon spectacle et les gens rentraient dans le spectacle de Bruno Salomon. Et ils disaient, ah, mais nous, on revient demain. Hein. Je dis, vous êtes déjà venu. Oui, 3 fois. Mais ça fait 3 semaines que je joue. Oui, bah on revient demain. D'accord.
Non, mais c'est vrai que c'est une...
Donc c'était bien.
Et jamais dans tout ton parcours, parce que bon, t'as touché plein
de choses. Au grand jamais.
T'as eu de doutes?
Bah si, tout le temps. Si, je crois que... alors ça dépend des doutes. Pourquoi des doutes dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends?
Ouais.
Si des doutes...
Mais c'est quoi ton rapport aux doutes en fait?
Les doutes, comme quand tu fais quelque chose qui n'est pas commun, parce que j'essaye. Et alors, si je fais quelque chose qui n'est pas commun, c'est parce que je le veux dans un premier temps.
Ouais.
Et parce que je pense différemment de ce qu'il y a. Quoi. Je me suis dit, si c'est pour faire ce que tout le monde fait, ça sert à rien, c'est pas moi.
Ouais.
Et donc du coup, je doute un peu parce que je me dis, bon, bah, je suis le seul à le faire, donc j'ai pas d'exemple non plus.
Oui, et
je
les sais gens pas aiment si... bien mettre en général dans les cases.
Bah oui, et voilà, ça c'est un gros problème d'avoir une étiquette, de devoir mettre une étiquette surtout. Et donc du coup, à un moment, tu te dis, bon, bah, ça c'est super drôle, c'est super pas commun. Mais du coup, est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens vont accrocher à ça? Donc soit tu crées une mode où les gens disent, bah oui, bah voilà, ok, ça c'est du Giovanni, ou bien, oh putain, ça c'est génial, je veux faire comme lui. Donc ça marche, mais pour ça, il faut avoir une putain d'ampleur et de pouvoir remplir des grandes salles et d'avoir une énorme équipe derrière, parce que sinon, bah c'est, il est pas commun. Voilà, ça s'arrête là, tu vois. Mais, et donc du coup, ouais, tu doutes un petit peu parce que tu te dis qu'il y a des choses qui explosent pour rien. Des fois, tu te dis, mais sur un mot, sur une phrase, tu te dis, bah, ça fonctionne parce que c'est le moment où les gens sont prêts à entendre ça. Parce que y a un mec qui a sorti une chanson, parce qu'il y a eu un film dessus, parce qu'il y a eu des hashtags balance ton porc, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu les Césars, parce qu'il y a eu la féminité, machin. Donc du coup, tu fais un sketch sur la nana, la place de la femme, machin. Donc, bah, ouais, putain, là, t'es dans le move, là, t'es dans le truc. Donc les gens s'y intéressent plus facilement. Mais par contre, tu dis, hey, moi, j'ai un grand-père qui était artiste. Ouais, c'est bien. Ouais. Et dis, Donc oui, tu doutes un petit peu quand même. Parce que bah, quand tu fais quelque chose de pas commun, il faut matraquer.
Du coup,
ton
chemin, il est peut-être un peu plus dans ce qui se ressemblait il y a 20, 30, 40 ans. C'est-à-dire que tu prends le temps d'installer, de faire les choses. Là où maintenant, il y en a qui ont beaucoup de talent, hein, mais qui vont faire une vidéo, qui vont faire le buzz et qui vont faire des grosses salles tout de suite.
C'est ça.
Du coup, le doute aussi peut s'installer là où tu vois les autres qui font une vidéo, ils cartonnent et toi, tu te dis, attends, ça fait 10 ans que je travaille.
C'est ça le problème, c'est qu'en fait, maintenant, on essaie de travailler. On a oublié le vite et bien et on a oublié pourquoi on travaille, je pense. Ouais. C'est-à-dire que maintenant l'idée c'est pas de faire une vidéo drôle, c'est de faire une vidéo
qui marche.
Mais même pas qu'elle marche, elle va marcher à partir du moment où tu mets une vidéo tous les jours à 19h et au bout d'un an tu peux être sûr et certain que tu auras des résultats. Tu auras forcément des résultats. C'est le calcul, c'est mathématique. C'est même pas une question de qualité, c'est une question mathématique. Parce que tu auras touché un algorithme, tu auras touché des gens, tu vas matraquer, donc du coup les gens ils vont savoir qui tu es.
Alors je dirais pas son nom évidemment, mais je connais un humoriste qui fait ça, et un jour il m'envoie une vidéo. Et puis je lui dis, je me sens obligé, il me l'envoie par message privé. Donc je lui dis, écoute, je t'aime beaucoup.
Tu m'as pas répondu d'ailleurs.
Non, je lui ai répondu, j'ai écouté, écoute, je t'aime bien, je comprends ta démarche, mais juste de mon point de vue, la vidéo est pas de très bonne qualité, tu vois, que ça soit la vanne, que ce soit. Je lui ai dit un peu juste mon point de vue. Ouais. Le mec me répond, ah, je m'en fous, je veux juste qu'il y ait des vues.
Mais non, mais c'est ça.
Et ça m'a. Tu sais, moi j'étais sur mon truc artistique. Mais du coup, j'ai fait OK. Bon, bah,
on en est là parce qu'on a inconsciemment, je pense qu'on a cherché à l'être. Avant, on mangeait bien. Maintenant, on mange. Oui. Voilà, tu vois. Oui, oui. Avant, on chantait bien. Maintenant, on chante. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'on essaie de tout faire très vite.
C'est quoi ta définition à toi de la réussite, du coup ? Parce que du coup, on a l'impression que la réussite, c'est devenu juste avoir des clics.
Moi, quand j'ai commencé, justement, on parlait des festivals tout à l'heure, mais quand j'ai commencé à choper des prix, je me disais toujours en rentrant chez moi, ce prix-là, je ne l'ai pas gagné parce que je suis bon, j'ai gagné parce que je propose quelque chose. Mmh. Et je pense que depuis que j'ai commencé le métier, et ça, ma femme, elle me le rappelle tout le temps quand j'ai ces moments de doute où je me dis, putain, mais en fait, ce que je fais, ça ne marche pas. Ce que je fais, les gens, ça ne remplit pas, ça ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas derrière moi. Forcément, tu te doutes tout le temps. En plus, je suis quelqu'un je suis un clown triste dans la vie. Je suis assez... Je me détache très vite des choses. Et elle me dit tout le temps, mais rappelle-toi cette phrase, j'ai toujours dit je cherche pas à être connu, je cherche à être reconnu. Mmh. Et ça, c'est important de...
Reconnu par ses pairs, quoi.
Oui, non, mais c'est vrai. De faire quelque chose que tu aimes, c'est important, mais faire quelque chose que tu aimes tous les jours, je pense que c'est ça la réussite.
Ouais.
Parce que j'aurais peut-être pas le succès que j'attends, mais en tout cas, les gens qui me connaissent, le jour où ce sera terminé pour moi, les gens... Voilà, j'aurais été au bout de ce que je veux faire vraiment et je me serais vraiment tenu.
C'est quoi ? Excuse-moi.
Non, vas-y, t'as commencé avant.
Tu disais, j'arriverais peut-être pas à ce que j'aurais aimé faire, mais c'est aujourd'hui, c'est quoi ton grand rêve ?
Moi, mon grand rêve, ce serait de choper quand même de gros rôles au cinéma et d'avoir une notoriété beaucoup plus importante. Je pense que c'est un peu aussi tout ce que tous les artistes recherchent, parce qu'on est tous des écorchés un peu, on fait tout ce métier aussi pour passer un bon moment dans la salle, c'est formidable, faire rire les gens, c'est formidable, les faire rêver, c'est pour ça que je fais ce métier, mais surtout, non mais c'est vrai, ça manque énormément, oui. Mais de voir les gens debout, de sauter dans le public, c'est ce que je fais tout le temps et c'est ce que j'adore.
Spectacle pour voir ça,
ce qui est bien, c'est que le public peut te rattraper.
Mais oui,
ça... je n'ai même pas osé rêver à ça.
Mais là, le public, il n'est même plus là pour me rattraper. Donc,
rattrapez-moi.
mais je pense que c'est important par soir, c'est pour ça qu'on fait ce métier, mais c'est surtout aussi l'amour que le public peut nous donner, c'est surtout pour ça en fait. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on recherche, le fait que les gens passent un bon moment, qu'ils sont venus nous voir et qu'ils ont passé vraiment une bonne soirée et qu'ils en veulent encore, c'est surtout ça que moi je recherche et que les gens en veulent. Je crois que je suis en manque de spectacle.
Est-ce que tu ne seras pas aussi internellement insatisfait?
Ah si, ça bien sûr,
c'est le propre
je le suis depuis gamin, j'en voudrais toujours plus, c'est un peu le problème de la richesse, hein. L'homme court toujours après ce qu'il n'a pas,
mais ça
tu lui donnes beaucoup d'argent, il va être malheureux en amour, lui donnes beaucoup d'amour, il va être malheureux en travail,
qu'est-ce que j'aime ma femme, je suis pauvre, mais ça a dû te conforter quand même dans ces moments de doute, te dire ok, j'ai du mal à remplir mes salles, mais putain, les gens qui sont là, ils passent un bon moment. Mes collègues me disent que j'ai du talent, que
moi,
machin.
Ce qui me réconforte dans ces périodes de doute, ce qui me réconforte, c'est quand je vais voir des salles remplies. Parce qu'il y a un mec qui est sur scène ou une troupe qui est sur scène avec un nom. Parce que ça a fait une vidéo de buzz, ça a fait un sketch, ça a fait un passage il y a 2 ans ou il y a 30 ans quelque part. Ils ont fait un single ou un tube ou un truc comme ça. Et que le spectacle est plat pendant 1h30. Et qu'à la fin, moi, les gens, ils sont tous debout, qui demandent encore, qui sont là, des gens qui pleurent, des gens qui sont émouvés. Émus. Ils sont émus. Ils sont émouvus.
Donc, tu te sers du malheur des autres pour être heureux. Donc, t'es un peu un connard.
De quoi? T'as dit quoi?
Donc, tu te sers du malheur des autres pour être heureux. J'ai besoin que les autres soient vraiment nuls.
Non, mais oui. Je pense que le principe, c'est de créer de l'émotion, en fait. Un artiste, c'est ça. C'est comme un peintre, c'est comme un chanteur. C'est comme un sculpteur. Le principe, c'est de créer de l'émotion, de créer de la colère, de la peur.
Exactement, créer de l'histoire, quoi.
Oui, c'est ça, que les gens sortent de là. Moi, c'est ce que j'ai toujours été touché par ce commentaire-là d'un gamin de... Ça fait des années, ça. J'ai déjà raconté plusieurs fois, un mec qui sort de mon spectacle et sa mère, elle dit « Alors, ça t'a plu ?» Elle dit « Waouh !» Il dit « Je sais pas ce que j'ai vu, je sais pas ce que j'allais voir, mais waouh !» Et là, je dis « Bah, c'est bon, on arrête. » Le gamin, il sait même pas comment expliquer ce qu'il a vécu, donc... je pense que les samedis matins, quand sa mère elle vient le chercher au foot, alors ça a été le match. Oh, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas combien de buts j'ai mis, mais waouh. Tu vois, non. Il dit oui, ouais, on a gagné. Ouais, tu vois. Ouais. Et c'est ça, je pense, le spectacle et la partie d'un artiste, c'est ça. C'est que ça bouge, c'est que ça crée, c'est que ça vit, c'est que les gens ils sortent de là au bout de 2 heures pour dire tiens, il est quelle heure ouais. Ah ouais, déjà, putain. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? On rentre pas dans l'ambiance là. Tu vois. Je pense que c'est ça le spectacle.
Et est-ce que d'ailleurs, du coup, alors là, je vais aborder un aspect un peu plus technique. Mais toi, par exemple, tu disais que tu as fait beaucoup de concours. Tu as un humour qui est très visuel où tu as souvent, au début, quand je t'ai connu, tu avais une bande-son. Tu as ouais. quand même des lumières. C'est quand même bien d'être soutenu visuellement par ouais. la lumière. Est-ce que, du coup, dans tous ces concours-là, ça a été un peu compliqué de mettre ça en place? Et des fois, tu as été un peu planté par des régisseurs ou où ça a été plus compliqué parce que ça, le mec qui arrive en stand-up, c'est simple.
Ça arrivait souvent. Ça, alors, en fait, je l'ai toujours fait souvent. Des festoches où j'arrivais et puis les mecs disent ouais ben non ça on peut pas, j'ai bah là j'aimerais du non on peut pas, et ben j'aimerais même... non mais bon bah alors tu peux me mettre une non d'accord bah alors il y a un moment où il y a un ping dans le son, est-ce que tu pourrais me mettre un flash, non d'accord, bon bah mets-moi un plein feu et puis je vais me démerder.
C'est là
et...
où tu te rappelles que t'as fait de la caravane pendant des années.
Et non mais c'est ça, et ça marche quand même, oui. Tu vois, et c'est ce que je dis toujours quand j'ai un régisseur qui est complètement con.
Tu peux me regarder dans les yeux quand tu parles.
je suis trop
poli,
je suis trop timide. Mais je leur dis toujours que c'est pas grave si les gens voient que les lumières ne sont pas bonnes, ça veut dire que je suis vraiment très mauvais. Et c'est juste un ouais. Normalement il y a que lui qui est censé comprendre, dire ça veut dire quoi ça, bah, ça veut dire que ça veut dire. Tu veux pas faire de lumière, donc c'est moi qui vais faire en sorte que tout se passe bien. Mais non, je pense que c'est important parce que, comme je dis, un spectacle doit être spectaculaire. Donc, si t'as juste un mec sur scène qui fait des bon, c'est bien. Par contre, si tu rajoutes des lumières, des trucs, des sons qui font vibrer l'organisme, le corps humain est fait pour
prendre plein la gueule.
Prendre plein la gueule, non, mais c'est vrai. Le spectacle, c'est ça. C'est comme voir un feu d'artifice qui fait.
Ouais, mais des fois, il y a souvent aussi des spectacles comme ça où. Si tu enlèves tout ça, il n'y a rien. Toi, ce n'est quand même pas le cas non plus, tu vois.
Mais
tu vois
c'est, ce que je veux dire. C'est ça. Mais alors, c'est exact. C'est l'exemple du feu d'artifice, comme je disais. Tu vas voir un feu d'artifice qui fait ça. Tu dis, oh, c'est joli. S'il fait pas, boum, boum, pas, 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 pas. Là, il y a un truc qui se passe. Ouais. Tu vois, ça part de partout, ça te prend au corps. Ça, c'est du spectacle. Mm. Mais si tu vois juste un truc qui fait. Allez, bon, on rentre, tu vois.
Ouais.
Voilà. Alors que si ça pompe pas mal, tu dis waouh,
ah,
hey,
oui, oui.
Bon,
ouais,
qu'est-ce qu'on fait,
voilà.
C'est là où t'as un truc qui fait émotionner.
Ouais, ouais. Non, mais c'est parce que là tu vois, ça. Je pense à Blanche Gardin que j'ai vue.
Ouais.
Putain, elle est seule.
Ouais.
Pas de bande son.
Ouais.
Les petites loupiottes derrière, mais j'ai pas débandé pendant 1h30 pour autant. Et c'est pas pour autant que je j'ai pas passé un excellent moment.
Mais
c'est
parce que c'est pas la même conception du spectacle. On n'a pas la même conception du spectacle.
Ah oui.
Là pour elle,
j'entends.
Blanche Gardin, c'est un seul en scène. Elle est toute seule. Elle raconte des vannes et elle parle de la vie de tous les jours. C'est comme tu vois Fabrice Lucchini, c'est la même chose.
Bien sûr.
Fabrice Lucchini, il tient un truc. Moi aussi, demain, quand je faisais du théâtre de boulevard. J'étais Giovanni sur scène, ça bougeait, ça gesticulait, machin, tout ça, et on avait un plein feu, un décor avec un ciel, mon mari, tu vois, alors, oh là là, mon mari, et donc c'était à peu près, c'était du théâtre de boulevard, c'était pas les trucs où chiadais, où t'avais la bande son, le truc qui sortait, où je prenais ma guitare, que j'allais chanter sur les genoux des gens, ouais. Donc on n'avait pas, tu vois, il y a d'un côté t'as un spectacle très américain, la Mick Jagger, très Rolling Stone, et de l'autre côté t'as un truc plus plat, plus spectacle de boulevard, quoi,
ouais.
Tu vois, plus théâtre de boulevard, où les gens ils viennent voir une histoire de la vie de tous les jours.
Toi, ce qui t'appelle le plus, c'est le spectaculaire.
Moi, c'est ça qui m'attire. Ouais. C'est vraiment j'ai eu la chance de regarder Johnny Hallyday sur les dernières. Bon, pas il y a un petit moment quand même. Mais bah alors,
il va
hey,
bien,
Jojo. le mec, il avait 60 balais et quelques. Il tenait la scène et ça pétait de partout et tu dis bah oui, tu sors de là, tu dis bon bah moi je suis pas fan de Johnny mais j'ai passé un putain de moment,
ouais,
quoi. C'est comme quand tu vas chez Disney et tu te tapes le ti-da-la-la-la-la-la-la-la-la. Et ben tout le temps du manège t'es un enfant.
Bien
voilà
sûr.
Et c'est ça pour moi l'idée du spectacle, c'est de remettre d'emmener les gens vers une émotion qui est écrite, qui est pensée, qui est imaginée, et que les gens sortent de là en disant waouh putain j'ai passé un bon moment parce que j'ai réussi à les happer et moi plus le son plus le truc. Tu vois, dans mon spectacle, quand il y a tout qui casse, que je me bats avec une mouche, avec une pelle, que j'explose le truc, le lustre et tout ça.
C'est bien ici quand il s'est tombé pas du tout au bon moment.
Ah oui.
Je raconterai après, mais incroyable.
C'est vrai que ça arrive souvent.
Son lustre. Alors je raconte pour les gens comment ça se passe. En fait, le lustre est raccordé à la régie et puis en régie on appuie sur un petit bouton et ouais. Le lustre tombe.
Il y a une, toi, y a une explosion. Ouais.
Et il y a une explosion avec. Sauf qu'un jour, donc c'était ton régisseur qui est là, Laurent, qui vient. Et qui donc on le branche, machin, on l'adresse, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et pendant le spectacle, Laurent il me dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un chenillard ? Chenillard, donc ça veut dire que toutes les lumières clignotent. Et moi je dis si, si, bien sûr, c'est là. Donc c'est là. Ce que je savais pas, c'est que dans le chenillard il y avait l'adresse du lustre. Donc,
mais là on, le spectacle commence.
C'est au début du spectacle.
Le spectacle commence.
Et il est en train de faire.
Et là ça fait Giovanni !
Pum !
Et pum !
Et Laurent il me regarde, il me fait c'était dans le chenillard.
Et là, je me souviens, il y avait Tonio, mon producteur, qui était dans la salle, hein. Qui venait voir le spectacle dans la nouvelle version. Et où je lui dis, il y a un moment, le lustre, il se casse la gueule, c'est génial. Et là, à la fin du spectacle, il dit, j'ai pas compris le lustre, c'est pas si génial. Hein. J'ai dit, alors oui,
c'était pas
oui,
le mais
bon.
Reviens demain et oublie ce que je t'ai
mais
dit.
Du coup,
ouais, c'était quelque chose.
Ouais, j'entends, mais du coup, toi, t'es hyper quand même, t'es hyper lié. À la régie et à tout ça, quoi,
ouais.
Finalement. Et
du coup, bah, c'est la régie qui est liée à moi, en fait.
Ouais. Mais ça te met jamais en stress en... Comment tu gères ça, tiens ? Le stress
Bah, je sais pas, parce que j'ai toujours fait ça. Donc, et je t'avoue même que quand je joue dans d'autres spectacles,
ouais.
C'est cool, hein.
Ouais,
une fois, mais je crois qu'une fois je suis venu au bah, c'est quand on a fait l'anniversaire du Spotlight, les 10 ans du Spotlight au Sébastopol
l'année dernière, juin 2019
d'un sexe à l'autre c'était février donc en mars
ouais c'est ça
en mars 2019,
en mars 2019 ouais.
Ouais. Et oui c'était ça, c'était juste on avait confiné quelques semaines après,
c'est ça.
Et je me souviens
2020, ça va,
ouais.
Vous avez arrêté de me faire chier pour une date
pour un an. Et je me souviens, j'avais fait 10 minutes, j'avais pas pris mon chapeau, j'avais pas pris ma guitare, j'avais juste moi, j'avais un micro aux mains comme
je
ça.
Je me souviens, mais ça a super bien marché.
Et ça avait cartonné. Et là, je suis sorti de là, je waouh, hey, je me fais chier, moi.
Non, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce que tu fais, ce suffit, la régie va appuyer ce que tu fais.
Oui, oui.
Tu vois un exemple tout bête, bah, quand on était à Lyon. Normalement au sol on avait mis un par LED, donc ce qu'on appelle ça là, ce qui permet,
ouais,
de faire de la lumière, parce qu'à un moment donné tu fais le dinosaure,
ouais,
et ton visage devient vert.
Oui, voilà.
Il s'est trouvé qu'en répétition l'après-midi le par LED était mort, on n'a pas pu s'en servir.
Ouais, ouais.
Ça a très bien marché. Le truc c'est
bien
que
sûr.
Le lendemain quand on a rejoué à Lyon,
ça
là,
marchait
là,
encore
il marchait,
plus.
Bah, ouais. Ça apporte de la couleur, ça apporte du relief à ce que tu fais.
C'est ça.
Mais ça n'empêche pas que ça marche quand même dans tous
mais
les
c'est,
cas.
C'est ça, c'est exactement
ça.
Je veux dire, c'est comme un bouquin, tu vois. Tu sors un bouquin, un roman, tu sors un Harry Potter par exemple. Tu lis Harry Potter, tu dis bon bah voilà, t'es plongé dans le bouquin. Par contre, si le bouquin il est magnifiquement bien écrit, même la
couverture, la
relure,
ouais,
tout est magnifique, tu dis putain là, je suis en train de lire un chef-d'œuvre. C'est pas pareil. C'est, bah oui, c'est ça. C'est tu lis ce bouquin dans un château, tu vois, ça sort encore plus fort, quoi. Voilà. Et je pense que bah, c'est tous ces petits détails et qui sont super importants. Et pour moi, je pense mon rêve, si je reste dans le monde du spectacle, mon rêve ce serait de jouer dans une salle qui est appropriée, que le qui a plus de scène, tu vois, que je joue carrément dans le public et que le public fait partie de la scène,
ouais,
en fait, qu'il n'y a plus ce quatrième mur.
Du soleil où y a vraiment,
c'est ça, c'est ça.
Du...
Si un jour j'ai la chance de pouvoir jouer dans des zéniths, des choses comme ça, par exemple, moi c'est clair et net, je dirais non pour la tournée des zéniths. Si c'est on loue les zéniths, toi tu joues là, et le public il est là. Je peux pas. C'est faire de la billetterie pour moi, c'est pas faire,
ouais,
du spectacle.
Les amis, on va arriver tranquillement vers la fin.
Bah non.
Donc je vais laisser du coup le mot de la fin à ma belle Émilie de Lettré.
Ouais.
Je vais laisser poser sa question.
Giovanni, si tu avais 3 conseils à donner aux jeunes qui veulent faire ce métier-là.
Faut pas se lancer en 2020.
Ça va,
trop tard.
Il fallait pas se lancer. Lancez-vous pas maintenant. Attendez un petit peu.
Faites des études.
Faites des études, même de coiffeur ou des BEP vente action marchande comme j'ai fait.
On aime beaucoup les coiffeurs et les vendeurs de.
Et oui, faites vendeur de coiffeur même si vous voulez.
Ça marche.
Non, je pense que c'est rester soi-même. Ne jamais essayer de copier. Alors je parle pas de copie comique, hein, mais essayer de copier dans le gestuel, dans le parler, dans le phrasé, dans tout ça, quelqu'un d'autre. Il faut rester soi-même. Je pense que c'est pour ça que les gens rient, parce que ils viennent voir quelqu'un, ils viennent pas avoir une copie
une
ou
authenticité, voilà. Une générosité.
Et voilà. Et deuxième conseil, prendre le temps de bien faire les choses et que même si c'est pas aujourd'hui et voilà que ça marche ça, et que ça marche pas demain et après-demain, ça pourrait marcher dans un an ou dans deux ans. Et
donc la persévérance aussi.
Oui, il y a jamais de faux espoir.
Tous les soirs à 19h.
Voilà. Faux espoir. Et oui, voilà. Et je pense que ça, pareil, ça c'est important aussi dans le milieu du spectacle, dans le cinéma, dans la vidéo, parce que maintenant la vidéo c'est vraiment un métier, être youtubeur et d'être influenceur, tout ça, il faut le faire vraiment parce qu'on a envie de le faire. Enfin, moi je sais qu'on me tanne avec ça en me disant mais il faut que tu ramènes du monde sur tes réseaux et machin. Je l'ai fait, je l'ai fait pendant un petit moment, le Covid est arrivé, ce qui fait que j'ai eu encore plus de temps de le faire. Et honnêtement je m'en lasse parce que je suis pas fait pour ça. Et je me suis mis une image qui n'est pas la mienne. Parce que j'ai remarqué que les gens s'abonnaient à moi parce que je faisais des grimaces, parce que je faisais ça. Et en fait, j'ai pas envie de faire ça. Je veux dire, on me compare souvent à Jim Carrey, mais Jim Carrey n'est pas juste un mec qui fait des grimaces. C'est un putain d'acteur, c'est un putain de génie sur le dramatique, sur l'écriture, sur ce qu'il propose. C'est un putain d'improvisateur. Et c'est pas juste un mec qui fait The Grinch, quoi. C'est un mec qui est capable d'amener plus que des grimaces. Et donc du coup sur TikTok par exemple, j'avais pas mal de monde, je crois qu'on était à 14 millions de j'aime, 2 millions de 20 millions de vues sur toutes les vidéos cumulées. Donc tu dis c'est génial, c'est formidable, mais à un moment pourquoi? Ça sert à quoi? C'est pas ça qui me fait vivre et c'est pas ça qui me donne envie d'aller plus loin en fait. Parce qu'à un moment, je me dis, c'est Eric Morena qui est décédé maintenant. J'étais très copain avec lui à une époque. Et c'est lui qui m'expliquait qu'il n'avait jamais voulu chanter au Mont Bateau, en fait. Il n'a jamais voulu chanter ça. C'est le producteur qui m'a dit, il y a une chanson au Mont Bateau. Il est rentré en studio, il l'a proposé, il l'a fait avec sa voix de ténor parce qu'il était vraiment chanteur ténor. Il a fait, Mont Bateau! Et puis il est arrivé, et le mec dit, oh putain, je signe. Il a fait des albums partout, machin, ça. Il s'est retrouvé pendant toute sa vie à faire, Mont Bateau! Et il en a eu ras le cul. Et c'est pas sa vie. Et il s'est retrouvé à être un pantin, une marionnette à travers ça.
T'as eu l'impression à un moment donné d'avoir été entre guillemets prostitué?
On m'a proposé plusieurs fois de faire des choses, ouais. On m'a demandé plusieurs fois de faire des...
Je devrais m'excuser combien de temps?
C'est quoi le rapport avec la prostitution?
Je devrais m'excuser combien de temps? Le temps que ça cicatrise. Et
on avait dit qu'on se tiendrait bien.
Et je pense que on me l'a souvent proposé de faire des choses comme ça, mais je me suis très très vite retiré.
Je crois que là,
heureusement qu'on joue pas à titre. Ouais.
On va s'arrêter là.
Hein. Oui. C'est la fin. Merci.
Mais non, c'est vrai que c'est important de rester soi-même, de persévérer, de continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Et puis et troisième chose, de surtout écouter les autres. Écouter beaucoup, beaucoup les autres, mais ne jamais, jamais suivre leurs conseils, mais de toujours les écouter, parce que c'est eux qui ont raison, c'est eux qui ont l'œil extérieur, c'est le vrai miroir, c'est eux. Et alors le problème, c'est que les conseils qu'ils vont nous donner, c'est quelque chose qui réfléchit, c'est comme un miroir en fait qui réfléchit, sauf que entre temps, ça passe par leur cerveau. Et ça, ouais. c'est très mauvais.
Alors, moi, il y a une fois un super conseil qu'on m'a dit. On m'a dit, on ne peut pas comparer deux tables en la mesurant si on n'utilise pas la même règle.
C'est vrai.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est vrai.
C'est-à-dire que
c'est
les
un
conseils,
concours de bite à la base.
Non, mais il y a les conseils qui sont les conseils critiques. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile de démonter quelqu'un.
Ouais.
Il y a les conseils qui... Enfin, moi, où les critiques, on dit « Ah, c'est bien, ouais, c'est chouette, c'est bien, merci, mais c'est pas ça qui va me faire grandir. »
Bien sûr.
Et après, il y a le conseil du mec qui dit « Ok, le conseil constructif, quoi. »
Oui, mais complètement. Mmh. Et c'est ce conseil constructif qui va développer. Et il est parfois très intéressant et parfois positif, et parfois il faut aussi l'admettre. C'est-à-dire que quand on te dit arrête ça, non mais oui c'est vrai, arrête de faire ça, ça marche pas,
ouais.
Ça ne fait rire que toi, il faut l'encaisser,
ouais.
Il faut réussir à l'encaisser. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a l'ego de l'artiste, mais je dirais même pas que c'est l'ego de l'artiste, c'est l'ego de tout le monde. C'est, alors elles sont bonnes mais pas atteintes, elles sont dégueu. Non, attends, ça fait 3 heures que je suis dessus. Non, elles sont vraiment dégueu.
Par contre, si
ouais,
je te
en
dis,
plus déjà, c'est qu'il y a un message.
J'aime pas, mais je pense que tu pourrais ajouter
oui.
du pesto.
Il y a une façon de le dire. Ouais, c'est même le pesto. Mais non, il y a une façon de le dire, c'est sûr. Mais le plus important, c'est de se retirer de ce que putain. on arrivera tout, ce mot fera toujours rire jusqu'à la fin, de se retirer sans jouir. Sans jouir de l'exercice.
Allez,
allez, merci, au revoir, c'était tout. Allez, Joe, je vous laisse.
Beaucoup,
je me permets, Joe, maintenant on se connaît.
Oui, bien sûr.
Joe. Merci, merci.
Mais de rien.
Merci,
de rien.
Merci à toi, merci Émilie, c'est gênant.
Merci le Spotlight. C'est gênant. Nous
merci le Spotlight, toujours, voilà. Marc.
Et puis Isabelle. D'avoir. Merci d'avoir consacré du temps.
Eh bah écoute, ça tombe bien, j'en
on
ai
peut
beaucoup.
Te retrouver
j'en
sur
ai
tes
beaucoup.
Réseaux sur TikTok.
Sur TikTok.
Tu feras des grimaces.
Des grimaces.
Sur YouPorn.
Non, sur allez, où je ferai des grimaces. Alors, il y a, je suis en train de travailler sur, enfin, je suis en train de travailler. Non, ça y est, ça a été tourné et c'est parti en réalisation. Une série internet qui s'appelle Essie. Alors là, pour
ah,
le coup,
t'en fais partie.
Bah, c'est moi qui ai fait ça. Et si.
C'est pas vrai.
Mais si.
Mais putain, j'en parlais. Bon, bref. Ouais. On en parlera après. On en parlera après.
Alors, peut-être. Alors, attends, parce que peut-être.
C'est Michel,
non ? Il y a peut-être un autre truc, un autre mec qui est en train de travailler,
bah moi,
développer un truc qui s'appelle Et si.
C'est le monde du stand-up. Qui, c'est pas. C'est, et si, par exemple, et si les Playmobil avaient des coudes. Non, ça n'a rien à voir.
Si, bon, c'est. Ouais, c'est si. Ouais, ouais.
D'accord.
Je suis en train de le sortir, là.
Bah ouais, mais
ah, mais vous
qui,
êtes le même
roux.
J'ai vu.
Peut-être.
Avec Stéphane Antoine. Bah oui, bah je fais non. Ça avec Stéphane Antoine.
Ouais, bah bon, bref, on en parlera.
Il y a des mecs qui sont.
Donc il y a ici qui va sortir.
Il y a ça qui est en train de sortir. Il y a l'album qui est en train de partir en studio. Il y a pas mal de beau monde qui s'y intéresse.
Avec Pierre Novak, qu'on remercie.
Avec Pierre Novak, ouais, que j'embrasse beaucoup. Et il y a alors des projets télé et cinéma qui sont en train de se mettre en place. On attend la validation, j'espère que ce sera validé, d'une grosse chaîne télé. Que je ne peux pas encore citer, mais ce serait pour un rôle récurrent. Et si ça se fait, ce serait vraiment génial. Mmh. Et puis après, eh bien, il y a peut-être le concert de l'album, la tournée concert. J'espère le faire. Ça peut être vraiment cool. J'espère d'ailleurs venir ici au Spotlight. Je proposais pour venir. Et puis... et puis après, bah, oui, les réseaux sociaux sur Insta, Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, tout ça.
Merci,
et puis voilà. Ben merci à vous
et merci la vie
merci la vie et faites la Covid